monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir avec moi dans le studio. Sophie Huvé, chercheuse à l'Institut Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité à Washington. Merci beaucoup Sophie d'être avec nous.
Merci Nathalie de me recevoir sur ce plateau.
Alors, vous avez une maîtrise en droit international à l'université de Georgetown. Vous avez une spécialisation en droit de l'homme et droit humanitaire. Vous avez travaillé à la division des affaires du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment sur les régimes de sanctions de l'ONU. Alors, l'institut en question à Georgetown, la présidente fondatrice de cet institut, c'est Hillary Clinton. Mélane Verwer est la directrice exécutive, c'est l'ancienne représentante des États-Unis à la Commission des Nations Unies sur la condition féminine, représentante spéciale chargée des questions de genre à la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors l'application et l'applicabilité des sanctions internationales pour viol et violences sexuelles de masse en temps de guerre ou en zone d'insécurité. C'est de ça qu'on va parler avec vous parce que vous êtes vraiment une experte. Très brièvement, comment ça fonctionne au niveau du processus? Qu'est-ce qui propose les sanctions aux membres et comment est-ce qu'elles arrivent sur la table?
Alors, avant toute chose, le Conseil de sécurité va voter pour qu'un pays, en fait, un pays ou une situation de conflit armé arrive sur son agenda. Et une fois que c'est sur l'agenda du Conseil de sécurité, le sujet va revenir une fois par mois. Donc, en fait, c'est un État ou deux États ou 10 États, en fonction de la situation, qui vont proposer, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, l'adoption d'un régime de sanctions. Et s'il y a un vote majoritaire pour adopter un régime de sanctions, à ce moment-là, le régime de sanctions sera créé. Si on a un vote majoritaire, c'est-à-dire, je crois, il me semble plus de 9 votes sans veto, à ce moment-là, un régime de sanctions peut être créé. C'est ce qui s'est passé dans le cas de la RDC.
Alors, on va voir que vous êtes l'auteur d'un rapport, justement, sur cette question-là. Et il faut savoir que le viol en temps de guerre est le crime le plus impuni.
Dans la presse.
La Cour pénale internationale a acquitté en appel le 8 juin l'ex-chef de milice congolais Jean-Pierre Bemba, condamné en 2016 à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique entre 2002 et 2003. Les sérieuses erreurs commises par la chambre de première instance font entièrement disparaître sa responsabilité pénale, a déclaré la juge Christine van den Wingert, précisant que la chambre d'appel a conclu que M. Bemba ne saurait être tenu pénalement responsable des crimes commis par les troupes du MLC pendant l'opération menée en RCA. Alors les juges ont estimé que l'ancien chef de guerre qui n'était pas présent en Centrafrique lors des faits n'aurait pas pu contrôler les agissements de sa milice. Rappelons qu'en 5 mois, les hommes du MLC ont tué, pillé et violé en Centrafrique où ils s'étaient rendus pour soutenir un jeu Félix Patassé. La CPI semble dire au chef de guerre « Tant que vous n'êtes pas sur les lieux, laissez donc vos troupes commettre les pires crimes et les pires abominations », s'est indignée la FIDH. Cette décision de la haie a également scandalisé Amnesty International, entre autres ONG de défense des droits humains. Sophie, j'aimerais avoir votre réaction, puis surtout votre analyse sur ce qui s'est passé à la CPI avec Jean-Pierre Bemba.
Je partage évidemment l'avis des organisations de droits de l'homme qui condamnent cette décision. Mais je tiens à rappeler que la CPI est composée de juges qui font partie des juristes les plus reconnus de leur génération et qui n'ont pas rendu cette décision à la légère, évidemment. Que c'est très frustrant de voir quelqu'un qui apparaît comme un criminel de guerre s'en aller en étant acquitté par un jugement comme ça. Ce à quoi il faut prêter très attention quand même dans ce jugement, c'est le fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas pu être condamné pour deux choses. Déjà, c'est parce qu'il y avait une insuffisance de preuves et une insuffisance de preuves en première instance. Et on a reproché au juge de première instance de n'avoir pas suffisamment respecté les principes qui font que la CPI est une juridiction qui respecte l'état de droit et qui font que, en fait, les jugements rendus par la CPI peuvent être respectés au niveau international. Il ne faut pas oublier que cette instance est notamment très critiquée pour être partielle. Et là, au moins, elle montre qu'elle a rendu un jugement qui est très, même s'il peut être très critiqué, qui est vraiment fondé en droit. Et en fait, ce que disent les juges de la CPI, c'est qu'ils disent qu'avec tous les moyens qu'il avait, il a en fait pris quelques mesures pour agir contre les auteurs de ces crimes. Alors après, il y a tout le débat, est-ce que c'était suffisant ou pas? Et moi, je suis aussi très bouleversée par cette décision.
Et il faut quand même savoir que c'était la peine la plus lourde jamais imposée par la CPI. Et moi, je voudrais avoir votre avis là-dessus encore. Fatou Bensouda a dit: tout en respectant cette décision, nous la qualifions de regrettable et de problématique. Pourquoi elle a dit problématique, selon vous ?
Je pense qu'elle dit problématique parce que la CPI a des gros problèmes de crédibilité. Dans le sens où la CPI n'est pas une instance, malheureusement, qui fait peur au niveau international. Parce que la CPI a énormément de gens qui sont sous mandat d'arrêt de la CPI, qui continuent à voyager comme ça dans les pays limitrophes sans souci de se faire arrêter, parce que la CPI a des gros problèmes de moyens aussi, et du coup les procès mettent des années et des années avant d'arriver en face des juges parce que il y a des gros problèmes de moyens, de preuves, etc. Et du coup c'était la première fois que la CPI jugeait un aussi gros poisson que Jean-Pierre Bemba pour des crimes aussi avec un problème de droit qui était très compliqué, c'est celui de la responsabilité du commandant hiérarchique. C'est quand même quelque chose qui est très compliqué à prouver. Et c'était une peine qui voulait être exemplaire. Donc quand Fatou Bensouda dit que c'est problématique, j'imagine que c'est parce que ça va encore plus impacter la crédibilité de la CPI. Il faut pas oublier que la CPI a pour vocation de poursuivre les auteurs les plus sérieux des crimes les plus graves, et que Jean-Pierre Bemba était un exemple de ça.
Alors justement, on rappelle qu'avec Bemba, en 2016, Fatou Bensouda sanctionnait pour la première fois l'utilisation de viol et violences sexuelles en tant que crime de guerre.
Parole de femme.
Suite à l'acquittement donc de Jean-Pierre Bemba prononcé en appel par la CPI, j'ai joint maître Edith Douzima, avocate des victimes des milices du MLC entre 2002 et 2003 en Centrafrique, et donc voici sa réaction, on l'écoute.
C'est un coup de tonnerre, c'est incompréhensible, les arguments qui ont été avancés, ma foi, c'est pas du tout juridique, c'est plutôt politique. Par contre, j'apprécie beaucoup les opinions dissidentes des deux juges de la chambre d'appel sur les trois qui ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec la majorité et qu'ils s'attendaient à une confirmation de la décision des premiers juges. Et je peux vous dire que c'est la déception pour une cour internationale de cette envergure créée dans le but de défendre les victimes, de rendre justice aux victimes.
Alors justement, à présent, comment justice va être rendue aux victimes, et en particulier aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles?
Pour qu'il y ait réparation, il faudrait que l'accusé ou les accusés soient condamnés et que la condamnation soit définitive. Regardez, c'est une décision qui a été rendue au détriment des victimes. Et en plus, ces victimes sont encore plus victimisées. Mais je le dis dans un autre sens. Selon les statuts de Rome, Bemba est en droit de demander réparation, c'est-à-dire d'être indemnisé par rapport aux 10 ans qu'il a passé en prison. Puisqu'on prétend qu'aujourd'hui, il n'est pas responsable. Donc, il n'y a plus de réparation pour les victimes. Même si la chambre d'appel ne conteste pas que, effectivement, les troupes de Bemba ont semé la désolation avec le centrafricain entre 2002 et 2003. On commet des crimes extrêmement graves, des atrocités à l'encontre de la population centrafricaine. La chambre d'appel sait qu'il y a plus de 5000 victimes, etc. Mais quand même, elle dit Bemba ne peut être tenu pour responsable parce qu'il a eu pris des mesures dont la chambre de première instance n'aurait pas tenu compte, qu'il était loin du théâtre des opérations, etc.
Dans vos recommandations, vous parlez du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Et ça, c'est une de vos recommandations qui me paraît extrêmement importante. Donc, c'est là qu'on en vient à votre rapport. Donc, vous êtes l'auteur du rapport Recours à des sanctions pour lutter contre la violence sexuelle liée au conflit. Et vous préconisez une meilleure utilisation des sanctions. Vous dites notamment que cette approche est caractérisée par une grande incohérence.
Oui, quand je parle des sanctions internationales, je parle des sanctions onusiennes. C'est-à-dire que lorsque le Conseil de sécurité adopte un régime de sanctions, il adopte ce qu'on appelle des sanctions ciblées. C'est-à-dire que, au lieu de, contrairement aux années 90, l'usage des sanctions a complètement changé. Donc maintenant, on ne parle plus d'embargo économique ou de ce genre de choses. On parle de sanctions ciblées, c'est-à-dire des sanctions qui vont cibler soit des choses très précises comme les armes, ou des secteurs de l'économie qui sont très précis et qui vont alimenter le conflit, comme les armes, les diamants, etc., soit qui vont cibler des individus. Et quand elles ciblent des individus, elles vont les cibler avec des interdictions de voyager, avec des gels d'avoir, et ces sanctions vont cibler des individus dans l'optique de soit les forcer à changer de comportement.
Mais est-ce que vraiment ça marche, ça ? Est-ce que vraiment ça fonctionne bien, le système
de
sanctions ?
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre ni par oui ni par non. Mm-hmm. N'est-ce pas ? Mesurer l'impact des sanctions, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Elles peuvent très bien marcher dans certains cas et pas du tout marcher dans d'autres. Mm-hmm. Les sanctions sur Laurent Gbagbo en 2011, juste après la Deuxième Guerre civile, notamment l'interdiction de voyager, ça a été une des choses qui a permis que Laurent Gbagbo ne s'échappe pas et soit capturé par les forces de l'ONU et les forces françaises. Les sanctions sur la Libye, aussi sur les membres du gouvernement de Kadhafi, et notamment sa famille, sont relativement efficaces dans le sens où elles ont permis de retrouver la trace de plusieurs membres du gouvernement Kadhafi et de les arrêter et de les poursuivre, enfin de lancer des poursuites pénales en Libye. Les sanctions contre l'Iran, si on veut élargir le sujet, ont aussi fonctionné et ont contribué à ramener l'Iran à la table des négociations. Donc les sanctions et aussi, donc évidemment il y a certains, par exemple Bachar al-Bashir au Soudan, les sanctions n'ont aucun impact sur lui, dans le sens où il voyage où il veut, comme il veut,
et ouais, il a accès à ses avoirs. C'est le bon exemple
aussi. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier que les sanctions, donc on va avoir un gel d'avoir, une interdiction de voyager, effectivement, si les pays, et notamment les pays voisins, ne les mettent pas en œuvre, elles ne vont pas marcher dans le sens où elles ne vont pas, l'individu va pouvoir continuer à travailler et va pouvoir continuer à avoir accès à son argent. Mais elles peuvent quand même avoir un effet de stigmatisation. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le naming and shaming, n'est-ce pas ?
Donc la réputation.
Voilà, c'est la réputation. C'est une vraie attente à la réputation. Et on a vu notamment dans le cadre des sanctions contre les terroristes et les groupes terroristes, il y a énormément d'individus qui ont été mis sur liste de sanctions parce qu'ils étaient accusés de financer Al-Qaïda, les talibans, Daesh, etc. Et qui, du jour au lendemain, comme ils sont sur les listes de sanctions du Conseil de sécurité, perdre leur droit de louer un appartement. D'un seul coup, dans la ville où ils habitent en Europe, ils ne peuvent plus louer d'appartement. Ils perdent les contrats que leur entreprise avait, ils perdent leurs amis, etc. Donc ça a un vrai impact aussi sur ça, et notamment sur un chef d'État, ça peut avoir un vrai impact sur sa capacité à se présenter à des élections.
Et la question du veto, parce que vous le dites dans votre rapport, qu'il y a des décisions politiques, par exemple dans le cadre du veto, je crois que c'est le Soudan, avec la Chine, la Russie.
Oui. Le Soudan est un des cas les plus compliqués en termes de sanctions et notamment de sanctions pour les violences sexuelles. Au Soudan, il n'y a eu qu'une seule vague de désignation sur les listes de sanctions. Ça a été fait en 2006 et ça a été fait après des mois et des mois de négociations, alors que ils n'ont finalement désigné que 5 individus, alors que l'Angleterre et les États-Unis ont proposé plus d'une trentaine pour violations massives de droits de l'homme. Et en fait, le Soudan, c'est un cas emblématique dans lequel la Chine et la Russie opposent systématiquement leur veto ou simplement menacent d'opposer leur veto. La menace d'un veto suffit à ce qu'une résolution ne soit pas passée. Et voilà, c'est un cas qui illustre parfaitement comment les dissensions politiques au sein du Conseil de sécurité peuvent impacter la situation des droits de l'homme sur le terrain.
Alors vous dites que le Conseil de sécurité devrait intégrer systématiquement et immédiatement la violence sexuelle en tant que critère indépendant lors de l'adoption d'un nouveau nouveau régime de sanctions.
Oui, ce qui se passe quand le Conseil de sécurité adopte un régime de sanctions, c'est qu'il va mettre en place des critères de désignation, c'est-à-dire des critères de, pour que les individus soient listés sur les listes de sanctions. Et les violences sexuelles en font rarement partie, ou en tout cas maintenant commencent à en faire partie, mais c'est très récent et c'est pas du tout systématique. C'est-à-dire que dans certains régimes de sanctions, le fait de commanditer ou participer à des violences sexuelles va faire partie, va être une base pour être désigné sur liste de sanctions, et dans d'autres régimes, ça ne va pas être le cas. Au Soudan, par exemple, ce n'est pas le cas, mais en RCA et en RDC, c'est le cas. Et donc, ce que je propose, c'est que c'est d'avoir une sorte de cadre juridique qui soit systématique, qui soit objectif, et que ce ne soit pas que l'intégration des violences sexuelles ne soit pas le résultat de négociations politiques et de considérations politiques, mais que ce soit automatique. C'est-à-dire que l'on dise, non, les violences sexuelles, selon les conventions de Genève, c'est un crime de guerre automatiquement dès qu'elles sont commises. Et donc, dès qu'on adopte un régime de sanctions dans lesquels il y a des violations massives de droits de l'homme, le fait que les violences sexuelles devraient être une base de désignation pour les sanctions, parce que c'est pas normal qu'on attende des années, parfois même 10 ans, parfois même 20 ans, comme en Somalie, pour les prendre en compte, effectivement.
Ouais. J'ai noté un point qui m'a vraiment marqué. Dans votre rapport, vous avez écrit « Les chefs de guerre tolèrent la violence sexuelle car ils pensent que le prix de l'interdiction serait plus élevé que celui de la tolérance ».
Oui. Alors en fait, ça c'est quelque chose qui est basé sur les travaux du docteur Elizabeth Wood et Dara Cohen, qui ont fait énormément de recherches sur les violences sexuelles et notamment lorsqu'elles sont commises par les groupes armés. Et en fait, ce dont elles se rendent compte, c'est que les violences sexuelles sont, dans beaucoup de groupes armés, un instrument de cohésion sociale. D'accord ? Et donc c'est pas forcément les commandants militaires ne vont pas forcément dire allez violer tant de femmes dans tel village parce que on va s'en servir comme arme de guerre. C'est juste que parfois les violences sexuelles sont tolérées parce que on pense qu'elles vont permettre de créer une structure au sein même du groupe armé. Et en fait, du coup,
interdire... C'est grave, ça.
Bien sûr, c'est très grave. Mais interdire les violences sexuelles, du coup, c'est-à-dire quand on interdire les violences sexuelles et punir les auteurs de violences sexuelles, en fait, déstabiliserait le groupe. Et du coup,
aurait mauvaise réputation auprès de nos
soldats. Et les soldats seraient moins efficaces, le groupe serait moins coordonné, moins structuré. Et voilà, c'est absolument horrible, je suis d'accord. Mais
oui,
la RDC est un exemple. C'est un exemple parfait de comment est-ce que les violences sexuelles sont utilisées comme instrument de cohésion.
Alors à propos de la RDC, vous avez fait une étude comparative de plusieurs pays où il y a eu des sanctions contre des individus, contre des groupes, contre des entités. Vous parlez de la Centrafrique, la RDC, le Soudan, Sud-Soudan, Somalie, Libye, etc. D'une manière générale, qu'est-ce qui ressort de cette étude comparative ?
Ce qui ressort, c'est que, encore une fois, la pratique au niveau du Conseil de sécurité est timide et incohérente. Parce qu'on a des régimes de sanctions qui vont pas du tout prendre en compte les violences sexuelles, comme le Soudan, Yémen et Libye. Et on a des régimes de sanctions qui vont les prendre en compte, mais parfois des années après qu'elles soient commises, comme en RDC. Et puis parfois aussi des régimes de sanctions qui, même s'ils vont prendre en compte les violences sexuelles, ne vont pas du tout cibler des individus, même si on a suffisamment de preuves que ces individus commettent en fait des violences sexuelles. Et donc c'est bien beau d'avoir un critère de désignation qui est basé sur les violences sexuelles si on ne s'en sert pas et si on ne l'applique pas derrière. Donc ce que je dirais en général, c'est que c'est bien, c'est un premier pas dans la bonne direction, ce que le Conseil de sécurité a fait. C'est très difficile de négocier avec 15 États qui ont des vues complètement différentes sur comment gérer un conflit armé et surtout quels sont les pouvoirs du Conseil de sécurité par rapport aux droits de l'homme. Donc c'est un premier pas dans la bonne direction de prendre en compte les violences sexuelles dans 8 de ces régimes de sanctions, mais c'est encore trop timide et c'est encore trop incohérent. C'est pour ça que la première partie du rapport critique beaucoup et la deuxième partie propose des recommandations.
Autre recommandation importante selon vous?
Investir, donner beaucoup plus de moyens aux groupes d'experts qui vont sur le terrain. Parce que les experts qui vont sur le terrain...
Mais des experts compétents, il faut le dire au passage aussi.
Oui, des experts compétents. Mais la compétence des experts, c'est pas ce que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est les moyens qu'on leur donne. Les experts qui sont envoyés, c'est un petit groupe. C'est généralement 4, 5, 6 individus. Et ils ont pour office d'agir comme les yeux et les oreilles du Conseil de sécurité. Donc eux, ils passent un an sur le terrain à vraiment aller au fond des choses, choses. Et ils essayent de rapporter les preuves, des preuves, et notamment les preuves de violations massives de droits de l'homme, et notamment de violences sexuelles, au Conseil de sécurité. Le problème, c'est que dans ces groupes d'experts, il n'y a jamais un expert qui est spécialisé sur les violences sexuelles. Jamais. Il n'y a pas de gender, il n'y a pas d'expert de genre. Il y a un expert global en droit humanitaire. Le problème, c'est qu'il y a tellement de violations humanitaires dans les conflits armés, notamment en RDC et en RCA, que c'est un peu compliqué de tout couvrir pour un seul homme. Et donc, il faut plus de moyens et il faut plus d'experts, en fait, tout simplement.
Et vous parlez de l'obligation d'épargner les civils, parce que ça, c'est une règle en temps de guerre. Oui. En temps de guerre, on n'est pas censé toucher aux civils.
Alors en temps de guerre, on n'est pas censé toucher volontairement aux civils. Ça, c'est une règle fondamentale en droit humanitaire. La seule exception, c'est que si jamais, dans la poursuite d'un objectif militaire, on cause des dommages collatéraux parmi les civils, en ayant respecté le principe de proportionnalité, le principe de précaution, etc., etc. Ça reste admis dans le cadre du droit de la guerre. La différence que je fais, c'est que les violences sexuelles, ça ne peut jamais être un dommage collatéral, parce que c'est jamais quelque chose qui est fait sans faire exprès, entre guillemets.
On a tendance à dire que le monde des fonctionnaires, c'est toujours l'administration, c'est extrêmement lent, on le voit, par rapport à la justice internationale notamment. Est-ce que vous verriez quelque chose pour simplifier et rendre plus efficace ce type de sanctions, notamment ciblées par rapport aux violences sexuelles?
Oui, alors je tiens juste à dire que le travail que les experts font est très important et ils tirent en bas. Irremplaçable en soi. Mais quelque chose qui pourrait sensibiliser les membres du Conseil aux violences sexuelles, c'est-à-dire plus qu'un rapport annuel par un groupe d'experts, c'est le fait d'ouvrir l'essence du Conseil de sécurité aux ONG, et notamment de recourir beaucoup plus souvent à ce qu'on appelle les ARIA Formula Meetings, c'est-à-dire que ces séances où les 15 membres du Conseil de sécurité viennent s'asseoir et viennent écouter des membres d'ONG qui viennent faire des rapports. Et ça, il faudrait que ce soit beaucoup plus souvent aussi. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité même ou au niveau des comités de sanctions, qui sont les organes subsidiaires du Conseil de sécurité. Par exemple, le comité de sanctions sur la RDC pourrait accueillir beaucoup plus souvent la représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles au niveau de l'ONU, et pourrait aussi accueillir beaucoup plus souvent, ou accueillir tout court, parce que je crois qu'il ne l'a jamais fait.
Et vous diriez même que ce soit systématique, en fait, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un, deux ou trois meetings de plus et de rapports par des ONG, en fait. Et ça serait très important aussi.
Sophie, pour terminer, qu'est-ce que vous auriez à ajouter qui vous paraît important dans cette lutte contre les violences sexuelles durant les conflits?
Oui, alors c'est un sujet qui est très complexe, mais on était très contents de présenter ce rapport parce que il met en avant un mécanisme qui existe depuis tout juste 10 ans. Le Conseil de sécurité a commencé à utiliser ça en 2008, mais un mécanisme qui est encore carrément sous-utilisé.
Mais il y a de quoi accélérer le processus maintenant.
Je suis assez positive parce que ce rapport a été très bien reçu à l'ONU. Il a été cité, j'ai été invitée deux fois pour le présenter auprès de pays membres de l'ONU et notamment de pays membres du Conseil de sécurité. Et il a été notamment cité pendant quelques meetings à l'ONU. Donc c'est plutôt bon signe parce qu'on peut espérer que, voilà, les membres du Conseil de sécurité sont pleins de bonne volonté. C'est juste que ce sont des diplomates qui arrivent, qui font une rotation tous les deux ans et qui parfois ne connaissent pas le sujet des violences sexuelles.
Ouais, c'est grave.
Le problème qui se pose, c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de connaissance. Et donc le fait de pouvoir leur présenter un rapport qui dit voilà ce qui s'est passé ces 10 dernières années et voilà ce qu'il faudrait changer, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait, et je pense que c'est quelque chose qui peut-être, avec un peu de chance, pourra pousser les choses dans la bonne direction.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous,
Sophie V. Un grand merci à Fredner Kayemit et à Wagner Robert à la production, et bien sûr le plus grand des merci à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. À très bientôt, au revoir.
Arrête.